La geek de service.
Tout le monde, avec la pandémie, a dû se revirer de bord puis aller vers le numérique. C'est un bond géant pour l'appropriation des technologies, avec de la frustration, des succès, parfois de l'anxiété. C'est sûr qu'on a tous vécu ça différemment, surtout si notre situation était différente. Certains avaient déjà, par exemple, en enseignement, leur classe en ligne, leur fonctionnement, leurs outils déjà préparés. Ils ont eu simplement à faire de nouvelles découvertes puis de pousser ça plus loin. D'autres n'avaient pas débuté de cette façon-là. Donc, ce fut un peu plus anxiogène et difficile. À la maison même, on a découvert des nouveaux outils ou on a utilisé des outils qu'on avait déjà de disponibles. Si par exemple, on avait déjà des produits Apple, on faisait peut-être des FaceTime avec nos amis ou notre famille éloignée. Donc, on avait une technologie pour communiquer. D'autres ont découvert des Zooms, des salons Facebook, toutes sortes de nouveaux outils qu'ils n'avaient jamais utilisés. Il faut dire que pendant la pandémie, qui n'est pas terminé, bien sûr, mais pendant l'urgence et les confinements de l'année dernière, beaucoup de compagnies ont profité de l'occasion, puis je les comprends, pour nous offrir leurs outils de façon gratuite et illimitée, un accès à une panoplie de fonctions. Par exemple, Zoom nous offrait là, des rencontres illimitées avec un compte gratuit. On a eu plein de petites choses. Google Meet a fait la même chose. Mais il y a plein de choses qui se terminent ou qui sont déjà terminées. L'idée et le pari de ces compagnies-là, c'était que vous alliez tellement aimer les fonctions payantes que vous alliez continuer à payer en septembre. Beaucoup se sont tournés aussi vers des choses qu'ils connaissaient. Je pense notamment à mes collègues en enseignement. On a fait des pages Facebook, on a utilisé YouTube, on a scanné des pages d'exercices avec notre tablette pour les envoyer dans une plateforme quelconque ou par courriel. On a pris Zoom vu que c'était gratuit, puis go, on l'installe. On prend l'outil que le collègue utilise ou que l'ami utilise, fait comme ça, ils peuvent nous aider. Bref, on s'est arrangé. C'était une urgence, c'était la crise. Tout le monde a fait de son mieux. Mon message aujourd'hui est par contre que maintenant qu'on est un peu moins dans l'urgence, qu'on a un peu plus de temps pour réfléchir, on a quelques petits enjeux qu'on a le temps de réfléchir maintenant et on peut faire mieux. J'ai vu certaines choses passer qui m'ont fait grincer des dents, mais que je me suis dit, tout le monde est dans l'urgence, c'est pas le moment, on parlera de ça plus tard. Des exemples, des enseignants qui ont filmé leurs cours et qui ont mis ça sur YouTube. Super idée. S'il y a des élèves qui étaient absents, ils pouvaient réécouter le cours. Par contre, on pouvait, avec l'outil, ils n'ont pas, par exemple, mis l'emphase seulement sur leur présentation. On pouvait voir les participants. On pouvait voir les participants, mais là, on pouvait voir, par exemple, des ados en chest dans leur chambre à coucher, en train d'écouter le cours. Puis là, on visionne ça sur YouTube. Malaise un petit peu. J'ai vu des cours de yoga être enregistrés, des gens qui sont à la maison. Et là, on voit tous les participants, puis c'est mis sur YouTube. Je suis pas très à l'aise à ce qu'on mette mon image de qu'est-ce que j'ai l'air quand je fais le chien tête en bas avec mes fesses en gros plan qui est enregistré dans Zoom et mis sur YouTube. Mais bon, ça aidait les autres, ça aidait les gens, ça nous désennuyait, je comprends. Mais il va falloir réfléchir et apprendre à utiliser nos outils comme il faut pour pouvoir, par exemple, si on fait une diffusion, s'assurer de demander la permission à nos participants, s'assurer de leur demander de fermer leur caméra s'ils ne veulent pas être filmés, s'assurer d'utiliser l'outil pour pouvoir justement éviter qu'on voit les participants lorsqu'on fait une diffusion et qu'on fait un enregistrement. J'ai vu beaucoup de non-respect du droit d'auteur, des documents numérisés, envoyés, même si on n'a pas payé pour le livre, tant pis, c'est urgent, je comprends, on était dans l'urgence. Maintenant, il va falloir réfléchir à ça parce que si on veut continuer à avoir des auteurs qui créent du matériel et qui sont rémunérés, déjà qu'ils le sont très peu, il va falloir penser à respecter le droit d'auteur. J'ai vu des horreurs comme des films et des documentaires téléchargés illégalement sur une plateforme de streaming puis déposés dans, par exemple, Microsoft Teams pour que les élèves puissent le visionner ou dans Google Classroom ou autre. On s'entend qu'on est loin de donner l'exemple éthique et du respect de la propriété intellectuelle de chacun. Ça, c'est sans parler de certaines pratiques, je pense à des pratiques pédagogiques, entre autres, où le lundi matin, on envoie 30 pages PDF d'exercices, puis la semaine suivante, on envoie 30 pages de corrigés. Mettons que de faire ça pour de l'enseignement à distance, on est loin de la motivation pour le jeune. On a donc besoin de réfléchir un peu plus à nos façons de faire, non seulement pour respecter les lois, respecter l'éthique, respecter les autres, mais aussi pour trouver des façons de rendre ça plus agréable. Comprenez-moi bien, là, je suis très fière de voir la créativité, l'effort, la débrouillardise que j'ai vue en matière de numérique. On s'est arrangé comme on pouvait. Personne n'était de mauvaise foi, du moins tous les gens que j'ai la chance de côtoyer puis que j'ai vu faire les mini-gaffes que je viens de dire qu'on va régler, que maintenant on va faire mieux. Mais je pense que maintenant qu'on sait, maintenant qu'on a plus de temps pour se préparer, il faut y réfléchir. Une réflexion s'impose. Même si c'est pratique de déposer mes enregistrements de cours sur YouTube pour les élèves, il est temps que je trouve la façon de faire qui va être éthique, qui va respecter le droit d'auteur, qui va respecter mes élèves, qui va me respecter moi-même. J'ai besoin de donner l'exemple aux élèves et aux gens autour de moi. C'est la même chose quand je vois des vidéos filmées d'enfants qui sont distribués là at large. Peut-être que ton enfant, quand il va avoir 20 ans, là, il ne trouvera pas drôle d'avoir été la sensation YouTube du moment. Il faut se questionner avec le numérique. Il est temps de dynamiser la pédagogie puis de rendre ça pas mal plus intéressant que de simplement prendre le cours magistral qu'on faisait, qui était plate, puis de le mettre en vidéo, qui est tout aussi plate. Il est temps de faire mieux puis de faire des meilleurs choix. Un des choix qui est fait dans les milieux scolaires, ça a été d'imposer certaines plateformes. Je tripe jamais sur l'idée d'imposer des plateformes, mais je comprends le pourquoi. L'idée est non seulement de faire des choix de plateformes qui assurent une sécurité des élèves, je pense entre autres à Microsoft Teams et à toute la suite Google Éducation, les commissions scolaires qui sont maintenant les centres de services scolaires, pardon, ont des ententes éducation avec ces plateformes-là, ces plateformes-là respectent des paramètres où, par exemple, ils ne ciblent pas les élèves pour de la publicité, alors que d'autres plateformes ne respecteront pas ça. Donc, il faut se questionner à savoir qu'est-ce qu'ils font ces compagnies-là de mes données, qu'est-ce qu'ils font avec mes élèves, qu'est-ce qu'ils font comme pour les cibler pour de la publicité. Il faut se questionner en équipe école, en centre de services scolaires, comme personne, comme individu aussi, dire j'utilise cette plateforme-là, est-ce que ça me plaît ce qu'ils font avec mes données? Et c'est là que l'anxiété monte parce que pour plusieurs, ben là, le Zoom qui fonctionnait bien l'année passée puis qui m'offrait une panoplie d'outils, ben là, il n'est plus disponible. Puis là, on me force à utiliser l'autre. Puis l'autre, il n'est pas pareil. J'en doute pas que vous aviez trouvé une façon de faire qui fonctionnait, mais je vous garantis qu'il y a moyen d'apprendre à s'adapter. Imaginez, là, on se prend un scénario, là, le parent, il est à la maison, il a 3 enfants. On doit retourner à la maison, l'école ferme, on espère que ça se passera pas, mais l'école ferme, j'ai 3 enfants. Mon enfant de première année a un CISA, je me suis inscrit comme parent, je dois vérifier sur CISA ce qui se passe. L'autre utilise Classe Dojo et Microsoft Teams. Donc, je dois aller voir sur Classe Dojo, puis je dois aller voir sur Microsoft Teams. Et le plus vieux est sur Google Classroom. Donc, je dois aller voir Google Classroom, mais son prof préfère utiliser Zoom pour les rencontres de vidéoconférences. Donc, je dois aussi me sauvegarder le lien pour aider mon enfant. Je vous le raconte, là, puis j'ai mal à la tête. Donc, je comprends l'idée de faire des choix en équipe école. Je le vis au personnel, ça, parce que je travaille avec un paquet de gens et j'ai un paquet de gens dans mon entourage qui ont leur outil chouchou. Donc, je me promène dans une formation via un Zoom, un Google Meet, un Microsoft Teams. Et là, si je ne l'ai pas utilisé depuis un certain temps, je n'ai pas mis à jour ma plateforme. Je dois avouer que parfois, j'ai des trop-pleins de multitudes de plateformes. Et je suis contente qu'avec certains collègues à qui je parle plus régulièrement, on a adopté une plateforme, on l'utilise, on la connaît, on est efficace avec la plateforme. Toutes les plateformes ont des avantages et des inconvénients. J'ai mes préférés, bien sûr, avec lesquels je suis plus à l'aise. Puis quand on me propose un nouvel outil là, pour une rencontre, ben oui, moi aussi, je chiale. Là. Puis moi aussi, là, je regarde et je dis, ah, c'est poche, là, celle-là, là, la main levée, elle ne fonctionne pas pareil. Ou celle-là, ben moi, j'aime mieux l'autre fonction. Si je pouvais, je créerais l'outil de mon choix où je pourrais dire, bon, j'aimerais cette fonction-là de tel outil, cette fonction-là de tel outil, mais ce n'est pas le cas. Donc, si vous vivez présentement un changement de plateforme, votre plateforme préférée n'est plus disponible ou au niveau du travail, on vous a imposé un nouveau changement de plateforme, là, je sympathise, je comprends, c'est pas facile, mais il faut travailler notre attitude en premier parce que se braquer, chialer, dire qu'on a eu ça, ben éventuellement, ça nous apporte rien. Je vous fais un parallèle avec les autos. Je suis pas une grande conductrice, je conduis depuis plusieurs années, mais je peux pas vous dire que j'ai une passion de la conduite. Je me sers de mon véhicule pour me rendre où je dois me rendre, puis je viens facilement anxieuse là quand il y a trop de trafic, quand il y a trop de monde. J'ai pas fait des accidents, ça va bien, c'est correct, mais c'est pas quelque chose avec laquelle je suis tout à fait à l'aise. Mon dernier véhicule, je l'ai eu pendant 10 ans, j'étais très contente, je le connaissais, je connaissais mes distances, tout allait bien. Et depuis dernièrement, j'ai une deuxième auto et je commence à être bien dans ma nouvelle auto, connaître mes distances mieux et tout. Ça va. On s'entend que si je vais à Montréal dans le trafic avec les travaux, ben je serre le volant, je prends un grand respire puis je stresse. Dernièrement, mon auto a dû aller au garage pour un entretien. J'ai pas eu mon auto pendant quelques jours parce qu'il n'y avait pas les pièces et tout. COVID oblige, c'était compliqué. Donc, J'ai dû prendre le véhicule de mon conjoint. Je déteste prendre le véhicule de quelqu'un d'autre. C'est la même chose que de changer de plateforme numérique. Quand on me mène là-dedans, je suis perdue. J'ai un moment de stress. Mon conjoint a une auto électrique. Il n'y a pas de clé. Il faut que je me souvienne comment démarrer l'auto quand tu n'as pas de clé. Les sons sont différents. Quand ça fait un son, je ne sais pas d'où ça vient. Les boutons puis les wipers, je ne sais pas son où à chaque fois. L'anxiété monte puis je ne l'aime pas son auto. J'aime mon auto. Je suis bien dans mon auto. Dans mon auto, je ne suis pas assis trop basse. Je vois mieux. Je sais comment démarrer l'auto. Je me sens incompétente et débutante quand j'embarque dans l'auto de quelqu'un d'autre. Pourtant, je conduis depuis plusieurs années puis j'ai une bonne base. Pourquoi je vous dis ça? Ben, j'avais un rendez-vous super important. L'auto de mon conjoint était disponible. J'étais pas pour choisir de ne pas prendre son auto. Fallait que je passe par-dessus. Ce serait vraiment ridicule de manquer mon rendez-vous qui est important parce que je préfère ne pas utiliser son auto. Même chose avec la techno. J'ai laissé mon chialage dans ma tête, j'ai pris un grand respire, puis je suis partie. Puis j'ai essayé de regarder les côtés positifs de cette nouvelle auto, donc de l'outil. Puis ben, je me suis rendue à destination. Et si je prenais son auto régulièrement, ben ça deviendrait probablement très facile. Mon exemple est peut-être boiteux, mais bon, l'outil qu'on vous impose ou l'outil qui maintenant n'est plus disponible et vous impose d'en choisir un autre, ben je comprends qu'on perd de l'efficacité au début. Je comprends que c'est pas votre choix. Je comprends que ça peut être frustrant, qu'on aimait mieux ça avant. Mais on va laisser une chance au changement. On va travailler sur notre attitude positive de dire « je me relève les manches, je vais me l'approprier ». Si c'est vraiment inefficace, faites valoir vos points. Essayez de voir. Peut-être que l'investissement vaut la peine de se payer la version payante à tous les mois parce que c'est vraiment efficace dans notre contexte et c'est vraiment ce qu'on a besoin. Et ça répond aussi au respect, puis à l'éthique, puis à toutes les valeurs qu'on doit défendre. Mais je veux pas vous faire de la peine, mais les outils, là, ils changent à une vitesse hallucinante. Donc, les fonctions que vous aimez aujourd'hui vont peut-être disparaître demain, vont peut-être devenir payants. avec la techno, il faut être ouvert à regarder qu'est-ce que je veux faire, puis est-ce que l'outil répond à la majorité de mes besoins? J'ai quelques irritants, mais celui répond, celui-là répond à plus de besoins que d'irritants, donc je vais y aller. J'arrive personnellement même pas à suivre tous les changements dans toutes les plateformes, puis je travaille là-dedans à temps plein et j'en mange. Donc, je lis là-dessus, même en soirée, même les week-ends. Donnez-vous donc une chance. Soyez bienveillant envers vous-même et même envers les plateformes. On prend un grand respire, on desserre les mains du volant, on se met de la petite musique, puis on roule lentement, mais sûrement, la route est tellement plus agréable quand on n'est pas frustré puis pas enragé. Vous pouvez me rejoindre sur mon site web alexandracoutelet.com ou encore ma page Facebook Alexandra Coutelet ou encore me suivre sur Twitter à Coutelet A. N'hésitez pas à me partager vos commentaires et vos suggestions.